C'est l'histoire d'un homme, d'un chef d'État qui décide de faire la guerre à un peuple sans que ce dernier l'ait attaqué. Une agression qui paraît comme une évidence. Parfois dans nos vies, ce n'est pas des hommes qui nous attaquent, mais des situations. Et on peut parler presque d'attaque surprise, d'attaque éclair par un ennemi déterminé. Et ce matin, nous allons voir cette attaque face à un peuple dont le budget de la défense est quasiment inexistant. Nous trouvons notre texte dans l'Exode, livre de l'Exode, chapitre 17, où il est dit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait la main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre et qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en le frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: Écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek du dessous des cieux. Moïse bâtit là un autel qu'il appela Éternel mon étendard. Il dit: Parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est la première fois qu'Israël rencontre un ennemi depuis sa sortie d'Égypte. Il y a là tout un peuple dans le désert, donc dans la zone, donc péninsule du Sinaï, si vous avez une Bible avec des cartes, qui est en train de marcher en direction donc du mont Sinaï. Et on voit dans ce texte que c'est pas Israël qui attaque le premier, mais bien Amalek, comme le texte nous dit. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Cette histoire est bien connue. On l'apprend aussi à l'école du dimanche, on l'apprend aussi à la maison, on l'apprend, voilà, dans notre jeune âge, pour ceux qui ont cette grâce d'être nés dans une famille chrétienne. Et le principe semble clair. Quand Moïse prie, Israël gagne. Quand Moïse arrête de prier, c'est Amalek qui gagne. Et quand Moïse se fatigue, évidemment, il faut le soutenir. Mais voyons notre texte de plus clair, de plus près. Tout d'abord, trois petites précisions. La première, c'est qui est Amalek? Pourquoi est-ce qu'il réagit ainsi? Pourquoi cette description et cette sentence de Dieu? Eh bien, Amalek est un petit-fils d'Ésaü. C'est une parenté, nous dit Genèse 36, pardon, éloignée d'Israël, un cousin. Et sous le nom d'Amalek, il y a toute cette grande tribu nomade qui vit dans cette région au sud de Canaan, jusqu'à la frontière égyptienne. Ce peuple était tellement puissant que Balaam disait qu'Amalek est le premier des nations, première des nations. Nous devons donc décrire Amalek comme un peuple puissant, rusé et cruel. D'ailleurs, Israël aura des problèmes avec Amalek pendant la vie de Gédéon, de Saül, de David, jusqu'au temps de la reine Esther où Aman était descendant d'Amalek. Donc, on voit qu'il y a là quelqu'un de farouche, ennemi du peuple de Dieu. Et puis, Amalek est un peuple qui a choisi une tactique, voilà, on dirait un coup bas, hein, négligeant toutes les lois de la guerre. Hein, malheureusement, c'est d'actualité. Un peuple nomade guerrier qui a l'habitude de faire des incursions et des razzias, mais avec le peuple d'Israël, quelque chose est resté dans le souvenir. Deutéronome 25 dit, souviens-toi, dit Moïse, de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Ce n'est pas juste un épisode au-dessus duquel on est passé. Comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsqu'Amalek attaque les enfants d'Israël, ceux-ci sont fatigués. Ils ont passé déjà des crises intérieures. Ils ont, chapitre précédent, murmuré contre Dieu, contre Moïse. Et de plus, Israël n'est pas expérimenté dans le combat. C'est un peuple nouvellement sorti de l'esclavage. Dans le camp du peuple de Dieu, il y a division, désorganisation, mécontentement, ce qui fragilise bien sûr le groupe. En fait, c'est la proie idéale, le moment idéal de grande fragilité. Et Amalek va s'en prendre au plus fragile de ce peuple qui est sans défense. Alors nous voyons la réaction de Moïse. C'est Moïse qui va, avec les données qu'il a, organiser eh bien, la défense face à un adversaire dont il est dit qu'il ne craint pas Dieu. Tout d'abord, il établit Josué, que l'on voit pour la première fois, nommé ici, comme chef des troupes. Et pendant que Josué commandera les hommes sur le terrain, eh bien Moïse, avec deux aides, eh bien, il va prier. Alors, il y a Aaron, on le connaît, c'est le frère de Moïse, et Hur, dont l'historien Joseph nous dit qu'il était l'époux de Myriam, donc la sœur de Moïse et Aaron. Bon, la Bible ne le dit pas, mais c'est intéressant de voir un peu l'histoire de famille, hein? Le choix de Moïse sera donc la confrontation. Il sait ce qu'il doit faire devant cette terrible agression, se défendre. Moïse est conscient que le combat va se situer avant tout sur le plan spirituel. Au-delà de tous les combats que nous entendons autour de nous, au-delà de ce combat militaire à Réphidim, il y a surtout la dimension spirituelle qui nous concerne en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. En fait, dans la plaine, tout va dépendre de l'intercession de Moïse. Et c'est ici le cœur du combat. Lorsque Moïse éleva la main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissa la main, Amalek était le plus fort. Notre ennemi. Tout d'abord, nous avons un ennemi. Là, le monde s'aperçoit que les nations sont entourées de gens, peut-être pas forcément des alliés. La puissance de cet ennemi, sa cruauté, sa ruse nous rappelle, donc celui d'Amalek nous rappelle celui d'un autre, le premier, le plus grand. Celui qui a combattu Adam et Ève dans le jardin. Celui qui va combattre durant tout l'Ancien Testament le plan de Dieu. Et celui qui combattra même Jésus depuis sa venue sur terre à Bethléem jusqu'à la croix. Mon frère, ma sœur, avoir accepté Jésus comme maître n'est pas un choix neutre. On se réjouit quand quelqu'un se convertit. On est reconnaissant à Dieu. Mais il faut aussi se rappeler que lorsque nous entendons ou lorsque nous avons fait cette démarche de venir au Seigneur, eh bien, nous avons provoqué automatiquement des hostilités. Le chrétien a et aura de toute façon des ennemis spirituels. Si Jésus sauve, le salut n'en reste pas là. Notre vie ne sera pas tranquille jusqu'à notre mort et, si le Seigneur revient, notre enlèvement. Il y a aussi un combat, des luttes différentes dans nos vies. Ce matin, notre frère Christian a parlé d'un de ces combats qui s'est imposé à sa vie. Nous avons un adversaire qui veut nous décourager, un adversaire qui veut nous effrayer, un adversaire qui veut arrêter notre marche et nous faire périr. Merci à Jacques de nous avoir rappelé que nous avons quelqu'un qui est là, dans lequel nous pouvons nous réjouir. Moïse ne dit pas au peuple « Fuis Amalek ». Il ne dit pas au peuple « Rends-toi à Amalek ». Il ne dit pas au peuple « On va négocier avec Amalek ». Il dit qu'il faut combattre Amalek. Nous avons un ennemi et cet ennemi cherche notre ruine. Le but d'Amalek, c'est de nous décourager. Le but des Amalek dans nos vies, c'est que nous abandonnions notre foi, notre joie et que nous options pour la fuite. Sa tactique, eh bien, c'est de s'en prendre à nous quand en réalité, c'est jamais le moment. On est fatigué, on a envie de se reposer. Les gens traînent, on devrait les protéger, s'occuper d'eux, et voici que Amalek fond avec sa troupe sur les plus faibles. C'est quand nous sommes dans le doute, quand nous sommes vulnérables, que l'ennemi vient pour créer du désordre et un affolement. Nous aurions besoin de nous poser un peu. Nous aurions besoin de temps, de calme, de force. Et voilà aussitôt une embuscade sur notre route. Le problème chez les enfants d'Israël, c'était qu'ils étaient déjà fragilisés par les premiers murmures contre Dieu avant cette attaque. Alors c'est assez remarquable parce que l'adversaire nous connaît bien. Il connaît nos défauts, il connaît nos péchés, il connaît nos faiblesses, il connaît notre orgueil. Et il est déterminé et sans pitié. Oui, on peut dire que notre ennemi est là et que notre ennemi agit. La deuxième des choses que l'on pourrait dire, c'est que le premier champ de bataille, c'est la prière. Je comprends que l'on puisse ne pas avoir trop de temps. Je comprends que l'on puisse être tellement occupé, parfois tellement soucieux, parfois tellement que nous limitons la prière à quelques phrases en disant « De toute façon, peut-être Dieu, il est assez grand, il connaît tout. » Cette histoire nous fait comprendre que la victoire sur l'ennemi, le mal, ne s'accomplit pas par des armes traditionnelles, mais par la prière avant tout. Moïse l'a compris, Josué l'a compris. La victoire a été rendue possible par une connexion avec Dieu. Le secret de la victoire ne se trouvait pas dans le bâton de Moïse. C'était là qu'un symbole qu'il élevait. Il ne se trouvait pas aussi peut-être dans les formules que Moïse a employées. Il ne se trouvait même pas dans une démarche de négociation de Moïse avec Dieu. Le secret de la victoire, c'était la prière sincère d'un homme qui recherchait avant tout la présence de Dieu. C'est la prière d'un homme qui sait que tout dépend de celui qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez François de Fénelon. Alors, rassurez-vous, personne n'a vu de son vivant, hein, puisque c'est du 16e, 17e siècle. François de Fénelon disait ceci. Pour montrer la confiance et l'authenticité que nos prières doivent avoir, il a écrit « Dis à Dieu tout ce qu'il y a dans ton cœur, tel qu'on vide son cœur avec ses plaisirs, ses peines à un ami cher. Raconte-lui tes problèmes afin qu'il te réconforte, tes joies afin qu'il te tempère, tes désirs afin qu'il les purifie, tes animosités même afin qu'il t'aide à les conquérir. Parle-lui de tes tentations afin qu'il t'en garde. Montre-lui les blessures de ton cœur afin qu'il te guérisse. Dévoile-lui ton indifférence au bien, ton goût dépravé pour le mal. Les gens qui n'ont pas de secret les uns pour les autres, ajoute-t-il, ne manquent jamais de sujets de conversation. Heureux ceux qui développent une telle relation proche et sans réserve avec Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu t'adresses à Dieu, comment t'adresses-tu? Des fois, on a peut-être honte, ou on est peut-être, on s'en décalé, pas à la hauteur, culpabilisé, qu'on dit, j'ose même pas m'adresser à Dieu. Alors que c'est justement là ce que Dieu recherche. Et nous avons dans la Bible de nombreuses prières faites avec sincérité que Dieu a entendues. La prière des prophètes face au peuple ennemi d'Israël. La prière d'un Job, chapitre 19, accablé, qui dit à ses amis, mais vous ne comprenez même pas à qui est-ce que je pourrais m'adresser. Et il ajoute, mais je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. La prière de ce publicain qui n'ose pas lever les yeux à Dieu et qui pourtant parle à Dieu. La prière de Jésus à Gethsémané, qui ose dire à son Père, éloigne cette coupe de moi. En gros, si ça pouvait s'arrêter maintenant, je ne veux pas aller plus loin. La prière de l'Église primitive pour la libération de Pierre. La prière de Paul, dont on a entendu un extrait. Nous sommes tellement persécutés qu'on ne sait même pas si on va garder la vie. Celui qui prie avec authenticité combat en réalité. La prière est un véritable combat. L'issue de la bataille ne dépend pas de la qualité des combattants, mais de leur foi et de leur prière. Et ce qui est intéressant dans ce texte et dans nos vies, c'est que nous pouvons résister, nous pouvons tenir ferme contre l'adversité et obtenir la victoire. Bien sûr, la prière ne dispense pas de l'action. Je ne peux pas dire « je prie et Dieu fera le reste et je reste à la maison ». Pendant que Moïse se tenait sur la montagne, Josué était en train de combattre dans la plaine. Nous ne pouvons pas rester toujours passifs et attendre de voir le résultat de l'action de Dieu. Nous risquons dans certains cas vraiment d'attendre longtemps, hein? Dieu n'apporte pas de solution toute faite. Il ne nous demande pas tous de prier assis sur un rocher. Heureusement qu'il y a des ministères dans l'Église. Je pense à nos frères et sœurs aînés qui peut-être ont moins d'activités extérieures, qui sont certainement plus à la maison et qui prient beaucoup. Dans cette histoire, bien, Moïse nous enseigne à prier et Josué à agir. Il y avait ce chrétien qui était au début du siècle dernier, qui était son travail consistait avec une barque à faire passer les gens d'une rive à l'autre. Et il avait noté deux mots sur chacune de ses rames. Sur l'une, prière, et sur l'autre, action. Alors les gens étaient interpellés, vous connaissez peut-être cette histoire. Il dit, mais pourquoi vous avez écrit ces deux noms? Il dit, quand je ne fais que prier, je tourne en rond. Et quand je ne fais qu'agir, je tourne en rond aussi. Les deux. Nous avons prié pour l'Ukraine et nous allons aussi agir. Alors aujourd'hui, on a fait quelques petites récoltes pour Julie, notre sœur. Hein, voilà une manière aussi d'encourager. Dans la semaine, vous recevrez dans les annonces l'action de d'une ONG chrétienne qui va demander donc des dons pour travailler, MEDER. Montre-moi ta foi, dit Jacques, et moi, je te montrerai mes œuvres. La prière nous amène à une aide concrète. La prière nous amène à un intérêt véritable. La prière révèle notre réelle bienveillance. Jacques chapitre 2 nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et si l'un de vous lui dise, Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il ? Un jour, il y avait un jeune qui, avec ses frères et sœurs, ne venait plus à l'église. Alors, je m'en étais inquiété et je suis allé rendre visite à la famille. Et en fait, c'était produit quelque chose de banal pour les uns, important pour eux, en tout cas assez particulier. Il était rentré des courses avec des sachets alors lourds. Et lui et ses frères, ils étaient quatre et sœurs, portaient ces sacs. Et là, il y avait un chrétien avec son véhicule vide qui klaxonne et qui leur fait coucou et qui passe. Alors, ils l'ont très mal pris. Ils ont dit, mais on est dans les problèmes et ils ne s'arrêtent pas pour nous aider. Ça peut être mal interprété. Alors, que nous soyons non pas des chrétiens avec le bien virtuel en tête, mais vraiment le désir concret de passer à l'action. Notre vie de prière et notre vie spirituelle. Vous savez, notre vie de prière en dit long sur notre vie spirituelle. Comment va ta vie de prière? Si l'action est importante, la primeur, l'essentiel, c'est d'abord la prière. Comment évalues-tu ta vie de prière? Est-ce que tu pries une fois par mois? Une fois par semaine? Une fois par jour, une fois toutes les heures, continuellement. Le but, ce n'est pas de culpabiliser, mais seulement de nous dire que si nous sommes en tant que chrétiens sauvés, nous sommes appelés à combattre pour la gloire de Dieu. Et nous avons besoin, dans notre prière et nos prières, de discerner l'enjeu spirituel. Parce que parfois, nous avons la tentation de voir que des hommes. Hein? Voilà, le responsable du problème, c'est lui. Et oui, mais on l'enlève, il y en a un autre. Hein? Et voilà. Hein? Et des fois, on dit, tiens, un responsable, c'est lui, mais en réalité, peut-être que Dieu nous demande d'avoir une autre vision. Parce que notre combat reste avant tout un combat spirituel. Moi, je pense que dans la vie, en réalité, tout est spirituel. Tout. Tout peut prendre un sens, nous le faisons pour Dieu. Paul l'apôtre dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand une maman s'occupe de son foyer, elle peut le faire spirituellement. Quand un frère travaille, il peut le faire aussi pour le Seigneur, la gloire de Dieu. Et on peut mettre ça dans toutes les situations. Soit alors nous combattons par la prière et progressons, soit nous plions. Et nous reculons. Il y a, mon frère, ma sœur, encore des domaines où l'ennemi nous attaque et nous ne l'aurons pas. Il y a notre vie personnelle. Et peut-être que dans ta vie personnelle, il y a cette radia de la part d'Amalek qui est venue te perturber. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire? Peut-être que dans ta vie familiale, quelque chose est venu bouger tout ça. Peut-être que dans la vie de l'Église ou dans les relations fraternelles. Alors, il est surprenant de voir que nous ne sommes pas toujours convaincus de l'efficacité de la prière. Parfois, on s'entend peut-être dire « À quoi bon prier ? J'ai déjà prié pour ce sujet. » Avons-nous l'habitude de partager nos sujets de prière ? Moi, je me réjouis de ce que Christian a eu la liberté de partager ce sujet important pour lui. Parce que sinon, il va les vivre seul. Si nous ne partageons pas nos soucis, nous allons nous affaiblir parce que nous resterons seuls. Nous arrive-t-il de solliciter quelqu'un pour prier? Si oui, alors en réalité, nous passons à côté de grandes bénédictions de Dieu pour nous. Moïse, sur la montagne, eh bien, avait un sujet qui le préoccupait. Parce que ça concernait le peuple de Dieu. Que nous soyons aussi préoccupés par les sujets qui concernent le peuple de Dieu. Dieu nous a donné des frères et sœurs afin que lorsque nos membres soient fatigués, ils nous portent dans la prière. La prière est un combat parfois bien éprouvant. Il est dit que les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Mais les victoires obtenues dépassent toutes les satisfactions que nous pouvons connaître. Alors, pour finir, Jacques nous a ce matin exhorté à avoir un regard sur Dieu et le regard de Dieu sur nous. Alors, ne lisez pas ce qui est écrit, c'est pas codé. Hein. Quel est le regard de Dieu sur ce monde en guerre? Qu'est-ce que Dieu fait? Nous avons une sœur ukrainienne qui prie, mais alors, véritable femme de prière et qui partage régulièrement ces sujets qui les concernent. Et Dieu merci, nous avons parmi nous aussi des frères et sœurs qui prient. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce texte, avant ce texte, Dieu est toujours intervenu tout seul. Il n'a jamais rien demandé au peuple, jamais. C'est lui qui a appelé Moïse. Moïse n'a même pas demandé. C'est lui qui est à l'origine de chacune des 10 plaies. Il n'a pas dit à Moïse, fais ceci, cela pour que ça arrive. Il a seulement dit, ça va arriver. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. C'est lui qui a défait l'armée de Pharaon. En fait, jusqu'à maintenant, Dieu a tout fait tout seul. Le mot d'ordre de Dieu, c'est lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, où il dit, restez calme et faites confiance. Hein? De même, à la croix, Dieu a tout fait pour nous. C'est lui qui est monté. C'est lui, le Fils de Dieu, qui a pris nos péchés sur lui. Le salut dépend entièrement de son œuvre. Jésus a accompli tout seul, sans qu'un homme puisse dire « je vais t'aider à sauver les autres ». Si Dieu a mené le combat jusqu'ici dans le peuple d'Israël, il est même curieux de voir que le nom de Dieu n'est pas mentionné dans cette bataille. Le nom de Dieu, en fait, c'est Moïse qui prend l'initiative, hein, qui va dire « eh bien écoute, Josué, toi tu vas aller là, et moi je vais prier sur la montagne ». Il n'est pas dit que Moïse prie à l'Éternel, il est seulement dit que Moïse éleva la main. Israël était le plus fort, et quand il baissa la main, c'était Amalek le plus fort. Et c'est une fois la bataille achevée qu'on voit Dieu apparaître. L'Éternel dit à Moïse, ces choses, écris-les comme un souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek du dessous des cieux. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas mentionné dans la bataille qu'il ne rejoint pas l'homme dans le combat. Quand on lit le livre d'Esther, pas une fois le nom de Dieu est mentionné. Pas une fois. Et pourtant, nous comprenons que Dieu est engagé dans la bataille. Peut-être dans ta vie, tu n'as pas conscience ou tu n'as pas peut-être la notion que Dieu est présent, mais en réalité, Dieu l'est. Et ce n'est pas parce que les journalistes qui couvrent les guerres ne mentionnent pas Dieu que Dieu est absent des conflits. Il n'est dépassé par aucun combat, que ce soit dans nos vies ou au niveau international. Il n'est dépassé par aucune guerre. Dans l'Ancien Testament, il est même dit, concernant les grands empires, qu'ils étaient un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument! Vous croyez qu'un chef d'État décide d'une chose sans que Dieu soit au courant? Sans qu'il ne soit un instrument? La Syrienne, dit le Seigneur, bâton de ma colère dans Ésaïe, la massue de sa main est l'instrument de ma fureur. Je le lâche comme une nation impie, je le dirige contre le peuple qui m'irrite, pour qu'il se livre au pillage, face du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, la Syrienne. Ce n'est pas ainsi que son cœur le prend, car c'est la destruction qui est dans son cœur, le carnage de nations innombrables. Et Dieu ajoute celui qui a été son instrument, malheur à la Syrienne. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est servi des Assyriens pour accomplir son plan vis-à-vis d'Israël idolâtre et désobéissant. Dieu a choisi l'Assyrienne. Les Assyriens pour punir Israël. Mais Dieu a vu que les Assyriens ont fait ça pour leur propre intérêt aussi. Et ce même jugement sera prononcé pour Babylone. Alors, bien qu'étant opposé à tous les malheurs provoqués par les guerres, Dieu n'en reste pas moins absent. Il accomplit son plan à travers cela. Moi, je prie pour que ces tensions qui viennent nous troubler puissent voir des cœurs se tourner vers le Seigneur. Vous imaginez l'engrangement de nouvelles âmes pour l'éternité? Rien n'échappe à Dieu. Et son plan final, parce que Dieu a un plan final. Son plan final, c'est de dire à Moïse, tu vas le déclarer à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek. Son plan final, il le redira 800 ans plus tard par la bouche d'Ésaïe. Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il effacera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Son plan final, c'est le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Les pays du monde entier, les nations entières mènent une guerre. Ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas de cette semaine. Et si ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre économique. Si elle n'est pas économique, elle est démographique. Si elle n'est pas démographique, elle est géopolitique, etc., etc. En fait, les nations rêvent d'une chose. C'est de mettre leur drapeau au-dessus de quelque chose pour montrer leur domination. Alors, ce qui est beau, c'est que Jésus, que Moïse a appelé le lieu de Réphidim, l'Éternel est mon étendard. Mon frère, ma sœur, un jour, Jésus montrera qui il est et le monde le reconnaîtra. Et ce monde verra que la foi, la prière, et l'espérance que les enfants de Dieu ont est quelque chose qui est réel. Moïse a bâti un autel et l'a appelé du nom de l'Éternel, l'Éternel mon étendard. Jésus est le vainqueur et il restera vainqueur. Amen.